France Inter.
Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades. And, you know, that has to stop. We have Liberation Day, as you know, on April 2nd.
Voilà dans le bureau ovale. C'était il y a juste quelques heures. Beaucoup de pays nous ont fait du tort, dit Donald Trump, à un point que vous n'imaginez pas. Pendant des décennies, il faut que ça cesse. Le jour de la libération, ce sera le 2 avril. C'est mercredi prochain. La libération des Américains, voilà qui résonne étrangement aux oreilles françaises, mais rien à voir avec 1945. 80 ans plus tard, c'est la guerre commerciale. Le 2 avril, Washington devrait annoncer ses fameux droits de douane réciproques. Des tarifs « tit for tat », dit-on en anglais, œil pour œil, dent pour dent. Une posture qui semble logique, mais qui en réalité pulvérise l'ordre économique mondial. Alors pourquoi, comment les États-Unis peuvent-ils se considérer à ce point victimes de la mondialisation et de la force de leur billet vert? On n'a pas fini d'essayer de les comprendre. En attendant, c'est le combat de boxe. Les Européens ont dit qu'ils allaient répliquer le 13 avril. Et puis, il y a une autre méthode de l'administration Trump, celle qui exige la reddition immédiate. C'est la guerre culturelle, la guerre économique aussi. Des dizaines d'entreprises françaises ont reçu ces derniers jours un courrier envoyé par l'ambassade des États-Unis à Paris. Ce sont nos multinationales, celles qui répondent à des appels d'offres du gouvernement américain. Vinci, par exemple, aurait été destinataire. C'est un questionnaire qu'on m'a transmis hier soir. Désormais, ces entreprises françaises doivent certifier n'avoir aucune politique de discrimination positive. Dès le premier jour de son retour à la Maison-Blanche, vous en souvenez, Donald Trump a déclaré illégaux ses programmes pour l'égalité des chances, quel que soit le sexe, quelle que soit l'orientation sexuelle, le genre, la couleur de peau. Une décision qu'il impose désormais à tous ses prestataires, quelle que soit leur nationalité et le pays dans lequel ils opèrent. Liberation Day, disent-ils.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine d'économie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec l'équipe Valentin Pérez, Étienne Bertin, Joseph Ascal, Sofiane Aktib au mix et Marie Potier à la technique. Et puis on embrasse bien fort notre réalisatrice Hélène Biziou. L'invité n'en arrête pas l'écho, c'est la directrice générale de Polytechnique dont vient de parler Ali Badou. Laura Chobard sera avec nous vers 9h40. Des questions sur la souveraineté, la défense et la féminisation des filières scientifiques. Les entreprises ont besoin d'ingénieurs, mais trop peu de femmes sont sur les rangs. La parité progresse trop lentement, alors pourquoi et comment faire mieux? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Il est comme moi, hein, il n'a pas fait Polytechnique, mais c'est une fusée. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque dernier samedi du mois, vous venez avec les meilleurs livres d'éco à demander à son libraire. Et ce matin, vous avez 3 recommandations.
Ouais, on va parler de Monet, mais de Jean Monnet. On va parler de Marx, mais de Jenny Marx, épouse d'eux. Et puis Alexandra, je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser parce qu'on va rentrer dans le monde des mafias.
Le monde des mafias. L'écho à la page, c'est la séquence. Conseil de lecture de Christian Chavagneux, on va se retrouver juste avant 10h. Tout de suite, le débat, l'actualité. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas entendu grand-chose cette semaine sur le conclave retraite après le tumulte de la semaine dernière, hein, vous vous en souvenez, la CGT qui a claqué la porte après la sortie de François Bayrou contre les 62 ans. Les artisans de l'UDP et Force ouvrière ne sont plus dans le conclave non plus. Alors il y a quand même encore du monde autour de la table. Les patrons du MEDEF et de la CPME et puis aussi les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, ils sont en train d'écrire une nouvelle feuille de route pour ce conclave. Quels sont les sujets qui pourraient émerger? Éric Heyer est avec nous. Hello Éric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous dirigez le département analyse et prévision de l'OFCE, c'est le centre de recherche en économie de Sciences Po. Et Marc Vigneault est à nos côtés. Hello Marc.
Bonjour à tous, bonjour Alexandra.
Spécialiste des questions budgétaires chez nos confrères de l'Opinion. Alors, le conclave sous les radars, quelle nouvelle feuille de route? C'est le débat.
François Bayrou, Premier ministre.
J'ai été interrogé pour savoir s'il était à mes yeux possible qu'on en revienne à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire à la suppression de la réforme des retraites. Et j'ai répondu que je considérais que ça n'était pas possible.
Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
La CGT a décidé de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale.
C'est pas le conclave qui est mal en point, c'est le système des retraites français.
Antoine Armand, député Ensemble pour la République.
Donc on peut continuer à se concentrer sur, si vous me passez l'expression, le doigt plutôt que la lune. La réalité, c'est qu'il y a un déficit abyssal du système des retraites, du système public. Et revenir en dessous de 64 ans, le mettre comme un objectif, c'est simplement mentir aux Français.
Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.
Le conclave est une arnaque. D'abord, certains syndicats n'y étaient pas. Par exemple, la FSU, premier syndicat dans l'éducation, FO a quitté, la CGT a quitté. Et le Premier ministre qui non seulement parle d'équilibre budgétaire, mais qui en plus de ça explique qu'il n'y aura pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Eh bien, n'en déplaise à M. Bayrou, il reste une solution pour abroger cette réforme. Cela s'appelle le vote.
J'ai posé un certain nombre de conditions et en toute priorité que nous nous accordions avec telle ou telle organisation syndicale sur l'impératif de retour à l'équilibre financier.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Et j'avais souhaité qu'on élargisse cette discussion globalement au financement de la protection sociale, dont les retraites. Je pense que ça détendrait la discussion.
Gilbert Sept, économiste, président du Conseil d'orientation des retraites.
Est-ce qu'ils iront plus loin? Est-ce qu'ils arriveront à conclure? Là, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. En tout cas, il faut féliciter la volonté de ne pas enterrer le processus et même d'en élargir l'ambition. Il est encore bien trop tôt pour savoir si ça va déboucher sur quelque chose de concret, de performant.
Alors, il s'agit de remettre sur la table la réforme des retraites de 2023. C'est le sujet de ce conclave. Éric Heyer, je me tourne vers vous. À présent, si vous deviez écrire une nouvelle feuille de route, si vous deviez négocier un seul point, que choisiriez-vous?
C'est d'abolir la réforme de 93. Oui, en fait, ben oui, parce qu'il faut lever une incertitude et un non-dit. Vous voyez, on a entendu encore dans votre petit sonore, il faut revenir à l'équilibre financier. Aujourd'hui, qui est capable de dire quel est le déséquilibre financier à l'horizon 2070? Personne. Pourquoi? Il y a une grosse incertitude, c'est le niveau et le taux de croissance de la productivité. Ça dépend de cela. Vous voyez, quand on dit 7 milliards, c'est parce qu'on a une hypothèse de productivité, personne n'est capable de le dire. À cause de quoi? À cause de la réforme de 93. Parce qu'avant 93, les pensions, comme les recettes étaient indexées sur les salaires et donc la productivité ne jouait pas. En 93, on a désindexé les pensions et les pensions qui étaient indexées sur les salaires sont maintenant indexées sur les prix. Et donc, il y a les recettes qui progressent comme les salaires, les pensions comme les prix, la différence, c'est la productivité. Il faut sortir de là, il faut tout remettre sur les salaires parce que le non-dit de tout cela, d'accord, c'est un, il y a la certitude sur l'équilibre financier et le non-dit, c'est qu'on programme un effondrement du niveau de vie des retraités à l'horizon 2070.
Vous dites pas effondrement.
Effondrement, vous voyez, avec, alors, selon l'hypothèse de productivité, plus il y a de productivité, plus l'effondrement sera important. Dans le dernier rapport du Corps, c'est
le 10, Conseil d'orientation du des Conseil d'orientation de,
c'est 17% de niveau de vie en moins en 2070. Et plus on va, plus le niveau de vie va s'effondrer. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est réindexer tout de suite les pensions sur les salaires. Après, on fixe le taux de remplacement pour les pensions et on fixe, du coup, le niveau de vie des retraités vis-à-vis du reste de la population à jamais. Et ensuite, on n'a plus besoin de se poser la question quel va être le sentier de productivité et on peut agir sur quelques critères comme la durée de cotisation ou l'âge pour le régler. Mais au moins, on sort de cette idée selon laquelle on est sûr qu'on est en déséquilibre ou pas, en fait, on n'en sait rien.
Ce que vous dites, au fond, c'est qu'il faut regarder d'abord l'objectif qui est de ne pas faire décrocher le niveau de vie des retraités par rapport au
ou
niveau
alors,
de vie des actifs.
L'assume. Il faut l'assumer. On dit le niveau de vie doit être à 85% des actifs. On le fixe avec le taux de remplacement et il ne bougera plus dans le temps. Alors que là, plus on va arriver tard en retraite, plus on va perdre. C'est impossible à faire. Et surtout, on a cette productivité au milieu. Et entre nous, on ne sait pas quel va être le taux de croissance de productivité en 2025 et on nous explique qu'il va falloir le projeter jusqu'en 2070, il faut sortir de là.
Marc Vigneault, alors je ne sais pas si vous voulez réagir à l'idée d'Éric, et vous en... même question
je
pour
je
vous.
Je ne saurais
ensuite.
Être plus d'accord avec Éric, c'est d'ailleurs dans tous les rapports du conseil, d'un autre conseil, le comité des retraites, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le conseil qui donne chaque année un avis sur quelle réforme il faudrait faire, il dit exactement ça, parce que en fait, on est un des rares systèmes de retraite en Europe qui n'est pas indexé un peu sur la croissance, et donc on ne sait jamais exactement où en est le déficit effectivement. Après, il ne faut pas laisser croire qu'une fois qu'on aura fait ça, on pourra maintenir le niveau de vie des retraités. Après, il faudra faire des choix. Est-ce qu'on augmente les cotisations? Est-ce qu'on baisse les pensions? Ou est-ce qu'on allonge la durée de vie au travail? Le choix sera le même, mais en tout cas, les paramètres financiers, les données du problème seront beaucoup plus claires et beaucoup moins hypocrites, et donc il faudra faire des choix beaucoup plus transparents. Donc je ne serais plus d'accord. D'habitude, c'est un point assez technique que seuls les spécialistes mettent en avant, mais effectivement, ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est commencer par là.
Bon, et alors, et si vous aviez vous un point, c'est le même point en fait.
Non, alors moi j'ai un autre point à négocier, il y a plein de points à négocier. Moi je mettrais tout sur la pénibilité, c'est un des objectifs de la CFDT. Il faut faire de la prévention de la pénibilité enfin dans ce pays. Ça fait 30 ans que les partenaires sociaux nous en parlent, 30 ans qu'ils n'en font pas. Il faut absolument mettre le paquet sur les réorientations de carrière. Vous voyez, quand vous êtes, que vous travaillez pendant 20 ans dans un EHPAD à soulever des personnes âgées, bah à la fin vous êtes cassé. Et donc, si vous voulez augmenter l'emploi des seniors, il faut que ces personnes, elles aient des perspectives de reconversion. Est-ce qu'elles doivent travailler dans l'administration de l'EHPAD? Est-ce qu'elles doivent changer de branche? En tout cas, ça, il faut le prévoir. Tous les pays qui ont des taux d'emploi des seniors importants, ils ont prévu des secondes carrières. Donc, il ne faut pas recréer des régimes spéciaux. Je doute qu'il faille mesurer des gestes pénibles. Enfin, en tout cas, les entreprises disent que c'est extrêmement compliqué,
ouais, c'est le gros
etc.
sujet du patronat.
Mais en tout cas, il faut mettre beaucoup plus d'argent sur la prévention. Il y avait un fonds qui avait été créé par la réforme Borne, qui était de 1 milliard sur je ne sais plus combien d'années. On a regardé, nous, à l'Opinion, il y a quelques mois, on a fait une enquête. En fait, il y a très peu d'argent qui a été dépensé. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent sur la table, les partenaires sociaux ne se sont pas emparés de cet argent, les branches professionnelles qui devaient flécher l'argent vers les métiers pénibles ne l'ont pas fait. Donc on se demande ce qu'ils attendent.
Est-ce qu'il y a sur la table, j'ai lu ça, le fait de donner les commandes du régime général aux partenaires sociaux, un peu comme ça se passe pour les régimes de retraite complémentaires?
Alors oui, je pense que c'est sur la table. Je ne suis pas sûr que et le gouvernement et le patronat soient complètement d'accord avec cela. Au contraire, on voit bien même le président de la République avait quand même une idée de transférer une grosse partie au contraire sur l'impôt et donc de quelque part affaiblir les partenaires sociaux parce qu'en gros, globalement, vous voyez, si c'est les partenaires sociaux qui gèrent, ben, si vous voulez faire des réformes, vous êtes obligé de passer par eux alors que si on est financé par de l'impôt, c'est l'État qui décide.
Alors là, le nouveau gouvernement est quand même beaucoup plus favorable à cette hypothèse. Hein. Il y a Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui a dit « Moi, dans la première réunion du conclave, si on peut encore l'appeler conclave, j'ai proposé ça. » Et en fait, il y a cette idée qui s'étend de plus en plus que l'Agirc-Arrco, les retraites complémentaires du privé, sont bien gérées par les partenaires sociaux.
On a eu leurs résultats cette semaine, ils sont encore bénéficiaires.
Voilà,
ils ont 85 milliards de réserves.
Parce alors, il faut quand même souligner, parce qu'ils bénéficient des réformes imposées par les politiques sur lesquelles tout le monde crache. Et puis eux, ils rajoutent des petits paramètres un petit peu compliqués sur les points que personne ne comprend. Ils font ça dans leur coin. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'ajuster le système. Hein. Donc, le jour où on leur donne tout, ça sera bien plus compliqué. Mais dans le patronat, il y a des organisations qui vous disent « Oui, oui, on veut récupérer la gestion des retraites, justement pour éviter ce débat du PLFSS chaque année. »
C'est
qu'on
le
fait
budget
une réforme...
de la sécurité sociale.
Pardon, le budget de la sécurité sociale. Est-ce qu'on, chaque année, est-ce qu'on fait une nouvelle réforme des retraites? Quels paramètres il faut toucher, etc. Vous nous donnez la gestion, on va faire ça de façon beaucoup plus apaisée, sans le théâtre d'ailleurs sur les réformes nationale portée par l'État, parce que les syndicats jouent pas du tout le même rôle, et on va faire ça de manière un petit peu, il l'avoue, un peu cachée, sans que les gens comprennent exactement comment on ajuste les paramètres du système. Et donc, mais il faudra qu'on assume des décisions difficiles. La contrepartie, c'est attention, là il faudra qu'on gère tout le régime, y compris la partie de base qui comprend quand même toutes les mesures de solidarité. C'est beaucoup plus facile quand vous avez un système à points où il y a zéro mesure de solidarité, où on vous dit les pensions de base, bah, c'est l'État qui va les financer quand on les revalorise. Vous vous rappelez, dans la réforme Borne, nous, on ne veut pas y participer. Attention, quand on donne tout aux partenaires sociaux, là, ça devient extrêmement, beaucoup plus compliqué. Mais les partenaires sociaux ont effectivement montré, y compris les syndicats comme la CGT et FO, que quand ils étaient loin des caméras, loin du théâtre
politique,
ils bloquent pas tout.
Éric Heyer, on entend aussi un autre débat dans l'atmosphère. Alors là, c'est plutôt le débat dans le débat, c'est dans la coulisse. Enfin, il ne faudrait pas discuter que du financement du système de retraite, il faudrait discuter du financement de l'ensemble du système de protection sociale, c'est-à-dire assurance maladie, vieillesse, qu'est-ce que j'oublie ?
La vieillesse, c'est la grosse branche, ensuite vous avez la maladie, et ensuite vous avez... Ça, les deux, ça fait 80%, hein, d'accord ? Et ensuite, vous avez famille, logement, pauvreté, exclusion, et vous pouvez rajouter emploi et chômage, le chômage n'étant pas exactement dans la sécurité sociale, mais financé quand même par des cotisations.
Alors racontez-nous, d'où vient cette idée ? Est-ce que vous la voyez, vous aussi, dans l'atmosphère ? C'est le patronat qui la lance, mais j'entends la CFDT.
Et puis, non, mais c'est une vieille idée.
Est-ce que c'est logique ?
Oui, alors c'est assez logique. Vous voyez, pour avoir des ordres de grandeur, il y a à peu près 900 milliards de prestations qui sont versées. Ça représente 33 points de PIB. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait qu'on a une dépense publique plus élevée que tout le monde. C'est là-dessus, d'accord ? Et on se dit... Qui doit les financer ? Est-ce que c'est des cotisations sociales, donc le travail, ou est-ce que ça doit être par de l'impôt ? Donc au départ, c'était exclusivement des cotisations sociales. De plus en plus, on le fiscalise, c'est-à-dire de plus en plus, c'est des impôts qui commencent à le payer. Aujourd'hui, on est à 2/3 de cotisations, d'accord, pour financer ces 900
milliards. Ça, c'est sur la feuille de paie.
Et à peu près, l'autre partie, c'est des impôts avec un impôt sur le revenu qui s'appelle la CSG, qui a été instauré d'ailleurs en 1991 par Michel Rocard, pour justement financer une partie par de l'impôt. Donc, c'est quoi la logique d'ensemble ? C'est de se dire, tout ce qui est assurantiel, ça doit être par des cotisations, tout ce qui est universel, ça doit être par de l'impôt.
Il faut nous faire la définition. Okay, assurantiel, qu'est-ce que c'est ?
Allons branche par branche. Ouais. Vous voyez, branche par branche, si vous parlez des retraites, les retraites, puisqu'à la fin, vous avez un pourcentage de votre salaire, ça doit être financé par des cotisations. Et donc, c'est normal, plus j'ai cotisé, plus à la fin, j'ai les pensions qui vont être élevées. Donc ça, on doit rester par des cotisations. En revanche, vous voyez, la maladie, puisque tout le monde y a accès à cette maladie, vous pouvez dire pourquoi seules les cotisations patronales et salariales financeraient cela. Et donc, ça soit un impôt qui le finance, ça paraît juste. Alors, on peut mettre une petite nuance, vous voyez, dans les 12 points de maladie, vous avez 10 points de santé et vous avez 2 points d'accident du travail. On peut laisser l'accident du travail via des cotisations, mais sortir les 10 points de santé des cotisations et le mettre vers un impôt. Alors là, tout de suite, quand même, la TVA n'est absolument pas le bon impôt pour cette
Je vois Marc Vigneault qui sourit.
Pourquoi
déjà.
Parce que c'est pas une dépense comme une autre. Et là, je pense que c'est l'erreur qu'on a pu faire depuis des années, c'est penser que les dépenses de santé pouvaient progresser comme le PIB, comme la richesse. Non, ça progresse plus vite.
Elles sont beaucoup plus dynamiques.
Et oui,
bien
pourquoi
sûr,
parce que ça dépend du vieillissement et du progrès technique. Normalement, le progrès technique, ça a un aspect général qui est, ça fait baisser les coûts. Pas pour la santé, non. Le progrès technique, ça vous permet de trouver des nouvelles façons de soigner. Et donc, ça augmente énormément les dépenses. Et donc, il va falloir un impôt spécifique et un impôt qui progresse. Et vous voyez, aujourd'hui, le mettre sur les cotisations qui progresse comme le PIB à peu près, ça fait que globalement, c'est en déficit. Et le déficit, c'est le déficit le plus important. Donc ça, il faut trouver un impôt spécifique. Et ensuite, tout ce qui est famille, tout ce qui est logement, il faut sortir, bien entendu, des cotisations et le mettre sur un impôt. Et on verra TVA ou CSG. Moi, je suis pour la CSG.
Oui, c'est un peu les termes du débat, effectivement. On oscille entre un modèle, ce qu'on appelle un modèle beveridgien ou un modèle bismarckien, et il faut un petit peu, nous, notre modèle, il y a des tas de tuyaux qui vont de l'État à la sécurité sociale, on ne sait plus qui finance quoi, etc. Donc une grande clarification, ça serait nécessaire. Là, je pense que l'ambition, elle est plus modeste. L'ambition, c'est de se dire il y a un écart très important entre le salaire super brut que verse l'employeur et ce que reçoit, in fine, le salarié dans la poche, et tout le monde considère qu'à la fin, ce que reçoivent le salarié, c'est pas assez. Alors, c'est l'effet d'un salaire différé, c'est la protection sociale. Mais dans l'arbitrage, qu'est-ce que vous avez sur votre protection sociale ou qu'est-ce que vous avez à la fin du mois dans votre poche ? On considère que vous touchez pas assez. Donc, l'idée, ça serait d'un peu moins prélever le travail et d'arriver à trouver d'autres sources de revenus qui seraient un peu plus prélevées. Donc, quel est l'arbitrage ? Il y a le MEDEF et le patronat, plutôt, surtout le MEDEF, parce qu'en ce moment, d'autres organisations patronales ne sont pas très favorables à la TVA. Mais en gros, ils veulent la TVA.
On
la
pourrait
TVA,
augmenter un peu la TVA,
voilà,
et du coup, il y aurait moins de cotisations.
Voilà, ça s'appelle la TVA sociale. Et en fait, ce que disent ceux qui sont favorables à cet impôt-là, c'est que ça va taxer un peu les importations et c'est favorable aux exportations. Et puis, de l'autre côté, il y a la CSG, on va faire participer les retraites. retraites et le capital au financement de la protection sociale davantage pour les salariés. Ça fait gagner un peu de pouvoir d'achat et ce sont les autres qui payent.
Et ça, c'est le débat. Dans le débat, on va voir si ça émerge. Marc Vigneault et Éric Heyer, les débatteurs de ce samedi 29 mars.
Real decreto ley para la ampliación de
industrialización en
el unemployment and lower job
creation.
L'écho en VO, on va partir ailleurs pour comprendre comment l'économie marche dans d'autres pays. Et là, on parle d'économie illégale puisqu'il s'agit de la cocaïne. Vous avez peut-être vu les infos de ces derniers jours du côté du marché. Le prix du gramme de cocaïne est en baisse pour la première fois depuis 10 ans en France. Et du côté des douanes, les saisies sont à des sommets. L'offre est abondante. D'où vient-elle cette offre? Eh bien, le producteur numéro 1 sur la planète, c'est la Colombie. Vamos.
La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky, eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky.
La phrase a marqué les esprits, hein. C'était il y a quelques semaines au Conseil des ministres dans le palais Nariño à Bogota. Le président Gustavo Petro explique « Mais c'est parce qu'elle est fabriquée en Amérique latine que la cocaïne est illégale. Ça n'est pas parce qu'elle est pire que le whisky, c'est ce que disent les analyses des scientifiques. Elle n'est pas plus mauvaise que le whisky, refermez les guillemets. » Bonjour Najed Benrabah.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes la correspondante de France Inter en Colombie, où les champs de coca continuent de s'étendre, la production explose, et cela, Najed, malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer la production.
Alors, il faut séparer deux choses. D'un côté, les efforts du gouvernement pour éradiquer la production de feuilles de coca, qui est donc le produit de base de la cocaïne, depuis les accords de paix signés en 2016 avec les anciennes forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, des programmes de substitution ont été mis en place. En clair, l'État payait les producteurs de feuilles de coca pour changer d'activité. Le président Gustavo Petro, le premier de gauche de l'histoire colombienne, a lui aussi favorisé cette démarche. Il vient d'ailleurs de proposer ce programme aux producteurs de la région du Catatumbo, l'une des plus grosses productrices en feuilles de coca du pays. Et il est en faveur de la légalisation de la cocaïne, car selon lui, si elle devient légale, les narcotrafiquants deviennent inutiles. Donc ça, c'est la partie politique, on va dire. De l'autre côté, il y a la réalité économique du pays. Une Colombie où la pauvreté a explosé après la pandémie, elle atteint presque les 50% de la population et les agriculteurs font partie des personnes les plus touchées. Ils ne parviennent pas à vivre de leur production de café, fruits ou légumes. Alors, ils produisent de la feuille de coca. Et certains le font sous la menace des groupes armés qui contrôlent leur territoire.
Et Najed, pourquoi alors cette vague blanche arrive aujourd'hui en Europe ?
Eh bien, à cause des drogues synthétiques. Le marché nord-américain était le numéro 1 de la cocaïne colombienne, mais depuis l'arrivée du fentanyl ou de la toussibi, deux drogues synthétiques, les clients ont changé leur habitude. Résultat, des tonnes de cocaïne restent invendues. Alors, pour ne pas perdre l'investissement, les narcotrafiquants préfèrent changer de marché et baisser les prix pour récupérer leur argent. Mais cela va changer, car les autorités colombiennes ont signalé des réunions entre des cartels mexicains et des narcotrafiquants colombiens. Il serait question d'étendre ce marché des drogues synthétiques ensemble. Car pour l'instant, en fait, la Colombie n'est pas intégrée à ce réseau. Elle a toujours été dans celui de la cocaïne, car les conditions climatiques et les terres fertiles offrent des conditions idéales pour la production de feuilles de coca, ce qui n'est pas le cas pour les drogues synthétiques. La Colombie ne produit pas les éléments de base de ces drogues.
Le décryptage du marché de la cocaïne avec Najed Benrabah, avec nous, de Medellín. (Rire) 9h36 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, interview de la directrice générale de Polytechnique, Laura Chobard. On va parler de souveraineté, de défense, d'intelligence artificielle, mais aussi de la féminisation lente du métier d'ingénieur. En France, sur 10 ingénieurs en activité, on a à peine un peu plus de 2 femmes, 24% exactement. Et dans les écoles d'ingénieurs, seulement 30% d'étudiantes, un chiffre qui ne progresse plus depuis 10 ans. La parité est encore loin, comment faire mieux ? Eh bien, nous sortons du studio 521, nous voici à Reims, chez Latitude, une start-up de 140 salariés qui fabrique des lanceurs pour envoyer des satellites en orbite. Le bâtiment ressemble un peu à une grosse soucoupe volante grise, m'a dit notre reporter Anaëlle Verzo. Anaëlle, passionnée par les maquettes de fusées.
Voilà. Donc bienvenue Monsieur chez Latitude.
Isabelle.
Virginie Viara, responsable RH.
Enchantée.
Enchantée. Vous avez un modèle Lego de ce qu'est notre fusée.
Ah, la fusée Zephyr.
Et
La banderole que vous voyez là-haut, c'est une banderole qui vous donne à l'échelle quasiment 1 le produit Zéphyr, qui fait donc 19 mètres de long, 19 tonnes. Et ça nous permet d'emmener des satellites jusqu'à 200 kg sur des orbites dites basses, donc 400 à 700 km du centre de la Terre. Donc Isabelle Valentin, donc ici je suis directrice des opérations, c'est chez moi que seront fabriquées l'intégralité des fusées.
Par quelles études vous êtes passée? Quel est votre parcours?
Donc moi j'ai fait Centrale Marseille, ensuite j'ai fait un doctorat de mécanique du solide. J'ai fait 30 ans dans l'automobile, des postes de développement produit, des postes de directeur d'usine. Et maintenant, j'ai cette responsabilité chez Latitude pour faire des fusées. Le premier entretien d'embauche, la personne qui était en face de moi voulait à tout prix me montrer qu'il ne voyait pas comment une fille allait pouvoir faire de la simulation pour des airbags. Et puis, son chef lui a dit un jour, non, mais il faut laisser une chance au produit. Cette fille, elle ne pense pas comme nous, mais elle pense bien. Et donc, ça a été ma chance, en fait, pour démarrer dans cette industrie de l'airbag qui était en pleine création à l'époque.
J'imagine que vous étiez à ce moment-là entourée d'hommes, il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes.
Ah, j'étais la première fille dans le bureau d'études qui n'était pas secrétaire.
Mais on vous respectait?
Globalement, on me respectait. Moi, j'ai senti ce qu'on appelle le plafond de verre. Je devais avoir déjà 18-20 ans de carrière où à un moment, quelqu'un a été nommé directeur de l'Engineering Europe alors que ce poste me revenait parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et quand j'ai été voir le grand patron, on m'a expliqué que j'étais une femme et qu'en plus, je n'étais pas allemande. Et donc, j'ai pu très naturellement lui dire que ça, c'était deux choses qu'on ne pouvait pas changer et que donc, on allait discuter d'une séparation.
Virginie, je me tourne vers vous, la responsable des ressources humaines. Il y a combien de salariés ici?
140.
Et combien de femmes sur 140?
Une vingtaine de collaboratrices et une dizaine d'apprentis et stagiaires. En moyenne, sur un poste technique, que ce soit ingénieur ou technicien, on va recevoir une candidature de femme sur 10.
Tous les produits que vous voyez dans le monde sont des produits derrière lesquels il y a des ingénieurs. Si on n'a que des hommes qui pensent ces produits, eh bien, ils vont être moins adaptés à l'ensemble de la population que si on se dit on met et des hommes et des femmes pour penser ces produits.
Pour recruter davantage de femmes ingénieures, Latitude propose des grilles d'évaluation à ses managers afin de les sensibiliser au biais de genre. Mais où trouver les candidates? En France, dans la plupart des classes préparatoires, on ne compte que 10% de filles. Et une fois les concours réussis dans les écoles d'ingénieurs, elles ne représentent que 30% des élèves, une moyenne qui varie selon la spécialité. Elles sont par exemple plus nombreuses dans la chimie et très minoritaires dans le numérique. Je me suis rendue dans deux écoles parisiennes à la rencontre d'étudiantes. Maëlle Cuedo est en quatrième année à l'ECE. Elle est aussi à la tête de l'association étudiante Hello Tech Girl.
Lorsqu'on fait un projet classique en groupe, en classe, un projet où il y a une partie plus technique et une partie moins technique, et directement, les garçons vont pouvoir vous dire « Ok, tu fais le rapport, tu fais la présentation PowerPoint et nous on code. » C'est très classique comme modèle. Et puis, pareil, si on a eu un poste, oui, j'ai eu ce stage. Oui, mais c'est normal parce qu'ils cherchaient spécialement une fille pour le poste, alors que ce n'était pas forcément le cas. Voilà, c'est des petites choses comme ça, pas forcément méchantes, assez inconscientes, mais qu'on entend assez fréquemment.
Mathiane est en première année à l'ISEP, en section informatique et santé.
Je voulais faire de la biotechnologie. Mais c'était un problème parce qu'ils me disaient c'est mieux d'avoir un doctorat en médecine puis te spécialiser en biotechnologie que de devenir ingénieur en biotechnologie en tant que femme.
Mais qui vous disait ça?
C'était des proches, la famille. Et j'en ai parlé à un proche. Il m'a dit, je te vois beaucoup plus en blouse blanche en train de soigner des patients que derrière un ordinateur à programmer des logiciels en tant que femme. Le profil, il est beaucoup plus adapté aux hommes qu'à une femme. Et j'ai voulu relever le défi. On ne doit pas se poser des limites. Dès l'instant où il y a un mur, c'est qu'il y a encore d'espace derrière. Et il faut savoir aller jusqu'au bout de ses limites.
Pour attirer des candidates, l'ISEP compte aussi sur ses journées portes ouvertes. La dernière a eu lieu le 8 mars.
Bonjour à tous, bienvenue à l'ISEP. Donc, je m'appelle Aline Aubertin, j'en suis la directrice générale. Et je vais vous dire quelle est cette école et qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver. 4 filles sur 10 ont été découragées d'étudier dans les secteurs techniques et scientifiques, et en particulier dans le domaine du numérique qui est le nôtre. Ils l'ont été parfois par des enseignants. C'est le cas de 64% des jeunes. Ils l'ont été par leur famille. Et il y a 63% des filles qui décrivent ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. Donc nous, vous avez tout à fait votre place à l'ISEP et vous y êtes les bienvenus.
Aline Aubertin, la directrice de l'ISEP qu'on vient d'entendre, est aussi la présidente d'honneur de l'association Femmes Ingénieures.
On parle de l'éléphant qui est dans la pièce et on dit, ben oui, c'est pas si facile que ça pour les filles. On les rassure, on explique les enjeux. Ça passe par une communication soignée. Ben, si vous regardez nos brochures, sur les photos, on voit des filles et des garçons. Dans les mots qu'on choisit aussi, je fais toujours attention à ne pas m'exprimer qu'au masculin. Voilà, comment on fait pour que les candidates potentielles ne soient pas découragées? Et c'est un enjeu de souveraineté nationale et de performance économique. On manque de 10 000 ingénieurs par an dans notre pays. Donc on n'a aucune chance d'arriver à remplir les besoins des entreprises uniquement en formant plus de garçons, puisqu'en fait on en forme déjà beaucoup. Donc on a besoin d'aller convaincre des filles. Il est là le vivier de recrutement dont notre pays a besoin. Quand on est divers, on est plus créatif, donc on est plus performant. Donc je peux vous promettre que les entreprises cherchent à diversifier leurs équipes et viennent vers moi en disant bah, « Écoutez, nous, on ne collabore qu'avec des écoles qui portent une attention particulière à ce qui est de la diversité dans leur promotion. »
30% d'étudiantes ingénieurs, un taux qui stagne depuis les années 2000. Comment l'expliquer ? Thomas Breda est chercheur à l'École d'économie de Paris. Il est l'auteur de plusieurs études sur la sous-représentation des femmes en sciences.
Il reste ce bastion des sciences « dures », entre guillemets, où elles restent fortement sous-représentées et où on n'a aucun progrès. On voit même que les pays qui sont le plus avancés en termes d'égalité hommes-femmes, des pays très développés, par exemple les pays scandinaves comme la Suède, la Norvège, eh bien ça va être les pays où il y a le moins de femmes dans les métiers scientifiques. Ça s'appelle le paradoxe de l'égalité de genre. L'une des hypothèses est liée à des reconfigurations, transformations de stéréotypes de genre. C'est-à-dire, quand on passe d'une société traditionnelle où les femmes restent à la maison, les hommes travaillent, à une société dite plus égalitaire. Ces très vieux stéréotypes sur les maths, la bosse des maths qui serait masculine, c'est quelque chose qui peut venir prendre plus de place.
Et quelles seraient les solutions selon vous ?
Alors, le début, les premières peut-être, c'est lié à l'enseignement des mathématiques. La manière de l'enseigner, enseigner les maths de manière ludique, comme quelque chose qui est de l'ordre du jeu, eh bien c'est quelque chose d'important qui peut aider les élèves à moins intérioriser tous ces stéréotypes qui sont prévalents dans nos sociétés depuis très longtemps. Une autre, peut-être, type d'approche, plus tard, au moment des choix scolaires, au lycée, c'est d'avoir de l'information plus objective sur les carrières. Parce que la différence, souvent, entre une lycéenne et un lycéen, c'est qu'une lycéenne bonne élève, elle va être très bonne en maths, mais elle va aussi être très bonne en français. Donc, on a tendance à les orienter, le système éducatif, les conseillers d'orientation, leurs profs leur disent « c'est trop dommage que tu fasses pas des lettres et du français parce que tu es vraiment très forte ». Mais si on te donne des informations plus objectives, par exemple en disant bah, « regarde les débouchés, hein, en étant quand même très forte en maths et en sciences, bah, faire des carrières mathématiques, c'est quand même quelque chose qui donne lieu à de très bons débouchés ». Ça permet aussi de changer ses orientations. Une dernière solution aussi très simple, c'est de montrer que les femmes scientifiques, il y en a. Une heure d'exposition à une femme scientifique suffit à montrer aux lycéennes que c'est possible et à les orienter davantage vers des prépas maths physiques, par exemple, ou des études scientifiques de manière générale.
Ingénieur, comment atteindre la parité ? C'était le reportage d'Anaël Verzeau.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Alors, comme dit notre économiste, nous allons nous exposer à une femme scientifique. La directrice générale de l'École Polytechnique est notre invitée. Bonjour et bienvenue, Laura Chobard.
Bonjour Alexandra Ben Saïd, merci pour l'invitation.
Vous êtes docteur en mathématiques, vous êtes ingénieure générale de l'armement, vous êtes experte en intelligence artificielle, vous êtes la première femme à diriger l'école, l'IX, et je vais ajouter que vous avez 45 ans. Alors à Polytechnique, à la dernière rentrée, on a aussi vu que le nombre de jeunes filles admises en cycle d'ingénieur était en baisse. Est-ce que c'est particulier à votre école ? Est-ce que pour les femmes en filière scientifique, plus généralement, le risque n'est même plus de voir leur proportion stagner ? Est-ce que le risque, c'est de voir leur nombre reculer ?
Effectivement, le reportage l'a bien dit, on stagnait depuis quelques années entre 20 et 30% dans les écoles d'ingénieurs, 20 et 30% de femmes. Mmh. Ça fait 2 ans qu'on voit des baisses à l'IX, mais dans d'autres écoles d'ingénieurs, et c'est particulièrement préoccupant parce que l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur scientifique est conscient du sujet, est mobilisé depuis plusieurs années, mène des actions en amont dans les collèges, dans les lycées, des accueils sur les campus, des actions de mentorat, tutorat spécifiquement tournées vers les femmes. Et pourtant, les chiffres sont têtus.
Donc vous n'avez pas d'explication ?
Alors, je crois que preuve en est qu'on ne comprend pas bien les biais d'orientation très forts qui pèsent notamment sur les femmes quand il s'agit de s'orienter, le reportage l'a très bien dit, vers les filières les plus matheuses et vers les mathématiques. On sait qu'aujourd'hui, il y a 3 fois moins de femmes qui choisissent l'option de mathématiques en première que de femmes qui s'orientaient vers la première S précédemment. Donc ça veut dire que le choix se fait plus tôt de se détourner des mathématiques. Or, en France, les mathématiques restent le critère de sélection scientifique par excellence.
Mais alors, c'est quoi, quand je vous écoute, je me dis, c'est quoi ? Ce sont les réformes du baccalauréat ? C'est le fait qu'il n'y a plus, plus que des options, c'est ça, en terminale ?
En tout cas, ça force le choix et le non-choix des maths plus tôt. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui faisaient une première scientifique allaient vers des filières à dominante mathématique. Mais là, elles abandonnent les maths plus tôt et elles se ferment par la même occasion beaucoup de débouchés.
Est-ce qu'il y a une question qui est toujours dans l'air ? Est-ce qu'il faudrait mettre des quotas ? Est-ce qu'il faudrait mettre des quotas dans les écoles, dans les classes prépa ? Est-ce qu'il faudrait mettre des quotas chez vous, à Polytechnique, dire dans le cycle ingénieur, nous on veut au moins 40% de femmes ? C'est ce qu'on a fait pour les conseils d'administration.
Ben, je crois que ça vaut le coup d'être instruit. Quelque chose de délicat. Je pense que les quotas, c'est pas un cadeau pour les femmes qui en bénéficient. On a entendu une jeune femme qui disait, qui se demandait si elle avait été prise en stage parce que c'était une femme, parce qu'on cherchait une femme. Donc c'est pas un cadeau pour les femmes qui en bénéficient, parce que ça va renforcer ce sentiment d'illégitimité. Elles en ont pas besoin. C'est pas un cadeau pour les garçons qui les hommes qui les entourent, qui vont toujours garder un doute d'avoir été lésés à cause des quotas. Mais je pense vraiment que c'est un cadeau pour les générations suivante. On le voit, ces mesures structurelles ont été nécessaires pour féminiser les conseils d'administration, les comités exécutifs des grandes entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, bien instruits, bien étudiés, elles sont nécessaires pour féminiser les filières scientifiques.
Ça veut dire qu'à Polytechnique, on est en train d'y penser ?
Ça veut dire qu'à Polytechnique, on réfléchit à des mesures structurelles, puisque les mesures, j'allais dire amont, ça fait 10 ans que l'école touche 25 000 jeunes par an en allant systématiquement dans plus de 500 lycées en France, en accueillant sur le campus des jeunes femmes à plusieurs moments de l'année, en faisant des stages de sciences spécialement dédiés.
Et ça n'a pas marché.
Femmes.
Est-ce que vous avez évolué sur le sujet ?
Je ne dis pas que ça ne marche pas, parce que je pense que la situation serait pire. Ces actions sont bien menées et vertueuses, mais ça ne suffit pas.
Et est-ce que vous avez évolué sur le sujet des quotas ? Vous, Laura Chebard, est-ce que vous pensiez que c'était peut-être... Parce que vous avez franchi tous les plafonds de verre, finalement. Vous n'avez pas eu besoin, peut-être, de vous poser... vous ne vous êtes peut-être pas senti dans l'impossibilité d'avancer sur les quotas. Est-ce que votre conviction personnelle a évolué ?
Oui, je considère toujours que c'est un pis-aller. Si notre méritocratie était parfaite, on n'aurait pas besoin de quotas. Et je pense qu'aujourd'hui, le constat est largement partagé que cette méritocratie est biaisée, y compris sur les sciences qu'on a trop longtemps considérées comme étant des matières accessibles sans un environnement culturel et socio-économique particulier.
Du côté des professeurs, parlons du recrutement. Aujourd'hui, on voit nombre d'universités, d'organismes de recherche qui se mobilisent pour accueillir les scientifiques américains menacés par le cap de Donald Trump. C'est encore le cas de Paris-Saclay, c'est tout près de chez vous ça, Paris-Saclay, c'est en Essonne, qui dit qu'il va ouvrir les portes à des doctorants, à des chercheurs. Chez Polytechnique, vous y réfléchissez ? Vous allez mener une action ?
Oui, je pense qu'à Polytechnique, on est bien placé pour accueillir nos collègues américains ou des collègues qui exercent aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'on a d'ores et déjà 45% de notre corps académique qui est international, 45% aussi de nos élèves qui sont des élèves internationaux. Et donc, les cursus, pour beaucoup, sont enseignés en anglais.
Mais donc, est-ce qu'il y a des gens qui toquent à la porte ? Est-ce qu'il y a des gens qui toquent à la porte ? Est-ce que vous voyez ce mouvement ? Comment vous le ressentez ? Vous êtes une très grande école d'ingénieurs, de scientifiques.
Oui, bah on a de nombreux postes ouverts et à l'international, dans le domaine des sciences du climat, dans le domaine de l'intelligence artificielle également. Et on sait accompagner des mobilités internationales avec l'environnement qui est nécessaire pour ça, pour installer un enseignant-chercheur et sa famille, pour acheter les équipements qui lui sont nécessaires pour redémarrer une recherche. Et ça, notamment grâce au soutien de la Fondation de l'IX. Donc oui, on est outillé. Oui, on fait la promotion de nos postes aux États-Unis, mais on dialogue aussi avec nos partenaires américains, les universités américaines, qui sont pour voir comment on peut les aider.
Est-ce que, avec la situation actuelle, les changements géopolitiques de la Russie comme des États-Unis, la guerre en Ukraine depuis 3 ans, est-ce que ça oriente plus de jeunes vers vos concours? Et est-ce que parmi vos étudiants, dont on sait qu'il y en a beaucoup qui sont allés vers la finance, vers l'assurance, il y en a plus qui se disent « tiens, je vais aller vers la défense ».
Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, dans nos populations d'étudiants, il y a un intérêt fort pour les enjeux géopolitiques, de souveraineté et de défense. Plus largement, un intérêt fort pour le service public. Ils ont envie de commencer leur carrière dans des postes qui ont un sens, qui a un sens pour eux, où ils peuvent se sentir utiles, que ce soit sur la défense ou sur la transition environnementale qui les préoccupe également beaucoup.
Et sur l'intelligence artificielle, c'est une des spécificités aussi à Polytechnique. L'IA, ça va changer la façon de faire la guerre ?
Oui, l'IA, ça va changer la façon de faire la guerre, ça le fait déjà, ça accélère le rythme de la guerre et de la conflictualité, dans le champ numérique évidemment, hein, les attaques cyber sont aujourd'hui très automatisées, et la défense cyber également, mais aussi dans le champ physique, avec le développement de nouvelles capacités d'armement.
Dans ce contexte très conflictuel, Laura Chobard, alors vous avez une série de critiques en ce moment parce que vous avez pris la décision de transférer, de faire migrer des données de l'école et de certains laboratoires de Polytechnique qui travaillent sur des projets sensibles, je pense au quantique, de les faire migrer vers le cloud de Microsoft. Et il y a cette loi, le Cloud Act, qui permet aux États-Unis, à Washington, de dire « mais moi je les veux, ces données, il faut me les donner ». Est-ce que vous maintenez votre décision ?
Alors, merci de me donner la parole sur ce sujet, parce que j'ai lu beaucoup de bêtises dans les articles qui sont parus sur ce projet.
Alors, corrigez-nous.
D'abord, il n'a jamais été question d'héberger les données de la recherche qui sont par essence sensibles sur le cloud de Microsoft. C'est pas ça dont on parle dans ce projet. Ce projet, il concerne la zone d'administration de l'école et de pilotage de l'enseignement, qui est aujourd'hui équipée d'une constellation d'outils mal intégrés et mal appropriés par les utilisateurs, qui du coup les contournent, et sur lesquels effectivement on envisage d'outiller nos personnels avec Microsoft. Pour ce qui est de la recherche, aujourd'hui ces données ne sont pas sur le cloud et demain elles ne seront pas sur le cloud. On est sous la tutelle du ministère des Armées, les données sensibles des laboratoires sont particulièrement suivies. Elles sont suivies dans le cadre de la politique de protection du patrimoine scientifique et technique de l'État. Elles font l'objet d'ailleurs de zones à régime restrictif. Vous l'avez dit, j'ai travaillé dans le domaine de la souveraineté numérique. Il n'est pas question de mettre ces données sensibles sur le cloud Microsoft.
Laura Chobard, la directrice générale de l'école Polytechnique, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Et voici le moment des conseils de lecture de Christian Chavagneux. Tout ce qu'il ne faut surtout pas rater en librairie. Alors Christian, votre premier coup de cœur.
Le mystère Jean Monnet par Gérard Bossuat, c'est chez Talendier. Vous me direz, au moment où l'Europe se réveille, j'ai envie de parler d'Europe. Pas du
bien
tout.
Vu.
Parce que, en fait, Gérard Bossuat nous montre que Jean Monnet, c'est un personnage intrigant, mais aux deux sens du terme. On sait qu'il commence sa carrière en étant le représentant de Cognac familial, donc dans le privé. Première guerre mondiale, il est secrétaire particulier d'Étienne Clémentel, un ministre important en France pendant la Première Guerre mondiale. Fonctionnaire international à la Société des Nations entre 1919 et 23, mais tout l'intérêt du bouquin est dans la suite, l'entre-deux-guerres. Jean Monnet, c'est un banquier d'affaires qui pratique le délit d'initié, qui utilise les paradis fiscaux, qui a un mondain qui reçoit Auritz. Il est très proche du grand escroc des années 30, Ivar Kreuger. Mais paradoxalement, c'est aussi un proche de Roosevelt. À partir de 1938, il organise la défense de l'Europe, notamment de la France et du Royaume-Uni. Alors la suite est plus connue, hein, commissaire au plan, la modernisation de la France, c'est le père de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais c'est tout, hein, parce que le père de l'Europe, le marché unique européen, il était contre. C'est une biographie passionnante.
Votre deuxième coup de cœur, on va apprendre plein de choses là déjà, mais votre deuxième coup de cœur, autre personnage historique, Jenny.
Ouais, Jenny Marx, Vivre et lutter avec Karl, c'est par Camille Le Boulanger, c'est textuel, c'est une petite bio toute petite de la baronne Jenny von Westphalen, personne cultivée, intellectuelle, militante, elle lit à note, résume pour Marx, recopie ses manuscrits, sauf que, elle va passer toute sa vie à raccommoder des chaussettes, à coudre, à cuisiner, à enchaîner les grossesses, la pauvreté, les enfants morts, une vie entièrement dépendante, malheureusement, de celle de Karl.
Alors, on finit vos conseils de lecture avec un livre qui a l'air franchement formidable.
Ah ouais, des livres sérieux sur l'histoire des mafias, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il date de 2012, mais il vient d'être réédité. Mafia et pouvoir, 19e, 21e siècle, par Jacques de Saint-Victor, chez Folio. Il y a une quantité d'informations incroyables. Je vous en donne 2-3. La mafia, elle naît de l'alliance entre le crime et la grande propriété foncière au début du 19e siècle. C'est une création de riches bourgeois, pas de pauvres. Plus on remet en cause l'État-providence, plus ça ouvre les portes à la mafia. Comme agent protecteur, les élites mafieuses soutiennent les économistes libéraux, il faut le savoir. Ne manquez pas le chapitre absolument passionnant sur les financiers de la mafia, notamment Michele Sindona, qui était le banquier du pape et le banquier de la mafia en même temps. Bref, vous allez comprendre comment la bourgeoisie criminelle est aujourd'hui l'un des piliers du capitalisme mondialisé.
Christian Chavagneux, l'écho à la page.